Sabine Delbault, bonjour à vous et merci de nous recevoir dans votre petit havre de paix d'Aubervilliers. Je vais essayer de vous décrire. Vous êtes historienne, diplômée d'histoire, spécialiste de l'histoire de l'art, conférencière, réalisatrice de nombreux montages audiovisuels. Et c'est d'ailleurs à ce titre que nos chemins se sont croisés maintes et maintes fois ici à Aubervilliers, une ville où il y a beaucoup d'événements culturels. Et à tel point que pour votre dernière production, j'ai œuvré à la bande-son du DVD que vous venez de consacrer au centenaire du premier conflit mondial, la Grande Guerre, comme on l'a appelé, enfin c'est la formule consacrée en tout cas, et vous nous en direz ce que vous pensez plus tard. Et alors là, vous vous efforcez de décrire, mais surtout de décoder cet événement historique avec un angle de vision que je qualifierais un petit peu de mondialiste, teinté du grand humanisme qu'on vous connaît, enfin surtout quand on vous connaît personnellement. Sabine, c'est à vous d'apporter les compléments d'information sur ce qui vous a amené ces études d'histoire.
Merci, bonjour Daniel Gresset, et merci de me donner votre antenne. Effectivement, on a toujours pas mal de choses à dire. Les historiens, les intellectuels, on est des bavards.
Continuellement voilà. À remettre en question.
Voilà, c'est ça. Alors, effectivement, voilà, je suis historienne de formation. Hein, je dis bien de formation parce que je n'ai plus le statut social d'historienne. Je l'ai eu un certain temps, mais plus maintenant. J'ai quitté l'université pour monter...
Oui, mais ça, on y est à vie. C'est un statut qu'on a à vie. Hein.
Ah enfin, en forcément, tout cas, voilà. J'ai la formation.
Voilà, voilà, hein, on ne vous l'enlèvera jamais.
Absolument, j'ai un titre de docteur en histoire et puis j'ai eu envie en fait quand je participais à une équipe de recherche donc à l'université, j'ai eu envie de transmettre ce qui se pratique pas forcément dans ce milieu qui est un petit peu élitiste. Moi j'avais envie de partager, pas de rester dans ce milieu un petit peu confiné. Et donc j'ai créé avec d'autres des structures associatives dans lesquelles donc effectivement j'ai élaboré des collaborations avec comités d'entreprise, les villes, les bibliothèques, et cela dans le cadre des célébrations nationales, dans la mesure où effectivement il y avait des demandes, donc c'était plus facile parce que bon, il fallait bien gagner sa vie, hein, de toute manière. Donc, c'était plus facile de trouver ce créneau.
Voilà, c'est un créneau. C'est une de vos spécialités.
Créneau porteur. Et donc, dans ce cadre-là, à chaque fois qu'il y avait une célébration qui m'intéressait, j'ai participé aussi à ces célébrations en collaborant également avec des musées. Mais ça, c'est pour les biographies historiques. Mmh. Hein, j'ai réalisé des biographies historiques. Par exemple sur Arthur Rimbaud, sur Verlaine, qui sont en place donc au musée de Charleville-Mézières, dans les maisons natales des écrivains. Et puis j'ai fait des audiovisuels sur donc des événements particuliers qui ont été commémorés par exemple la Révolution française qui a été une très grosse célébration, et puis là sur la célébration la commémoration de la Première Guerre mondiale,
c'est le sujet qui nous arrive aujourd'hui
dans le cadre du centenaire. J'étais un petit peu effarée de ce que j'ai commencé à entendre sur la façon dont on présentait les choses, à commencer par celle du président Hollande, qui a placé cette célébration sous le signe d'un bloc, une sorte d'union sacrée du XXIe siècle par rapport aux problèmes économiques auxquels nous sommes confrontés. Et cette union sacrée qui a effectivement eu lieu en 1914 a été une des raisons qui a fait que cette guerre a eu lieu, en raison même de la défection, on pourrait dire, du mouvement ouvrier, qui en fait était contre la guerre et qui appelait à la grève générale contre la guerre. Et puis, pour un certain nombre de raisons que j'explique donc dans le DVD, eh bien, ce mouvement ouvrier, que ce soit donc la SFIO, puisqu'à l'époque il n'y avait que la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, et donc justement l'Internationale ouvrière, deuxième de son nom. Donc tous ces organismes-là, que ce soit du côté français, du côté allemand ou d'autres pays, au bout du compte, n'ont pas appelé à la mobilisation ouvrière. Et donc, effectivement, ils n'ont pas pu empêcher la guerre. enfin pour la majorité d'entre eux, hein, puisqu'il y a quand même eu un certain nombre de militants qui, eux, ont refusé la guerre. On les a appelés les Zimmerwaldiens. Les Zimmerwald, de la ville de Zimmerwald en Suisse, voilà, ouais. Parce qu'ils se réunissaient, dans cette ville-là, qui était la Suisse, qui était un pays neutre. Donc, fallait bien trouver un endroit où les internationalistes et les pacifistes pouvaient donc se réunir. Et donc, il y a quand même eu tout un courant, qui est d'ailleurs beaucoup ignoré, qui s'est battu contre la guerre durant tout le conflit et qui a continué à mettre haut, à porter le drapeau de l'internationalisme prolétarien.
Et ça, c'est un événement qu'on a absolument occulté. Tout ce qu'on a pu entendre déjà là, cette année, mais même avant, effectivement.
Absolument, puisqu'on nous a présenté cette guerre comme une sorte de fatalité, une guerre inévitable, alors en occultant bien évidemment les causes, parce que ce qu'on entend, c'est le jeu des alliances, c'est l'attentat de Sarajevo, des choses qu'on a vues dans tous les bouquins scolaires.
Et des troupes qui partent toutes, tous et toutes, la fleur au fusil, etc.
C'est absolument faux.
En se disant au revoir, en se disant à demain, enfin à la semaine prochaine. Enfin, voilà.
C'est absolument faux. Il y a eu une certaine résignation, une certaine soumission, mais la fleur au fusil, c'est vraiment une image d'Épinal. Ça, c'est l'image d'Épinal contre laquelle je m'élève, justement, parce qu'elle n'est pas juste. C'est vrai qu'aussi, il y avait, alors, en France particulièrement, mais même dans les autres pays d'ailleurs, mais il y avait cette montée du nationalisme, cette montée du patriotisme qui avait été fabriquée, y compris dans les établissements scolaires, et puis parce que la France ayant perdu la guerre en 1870,
voilà, c'était
donc celle de Napoléon III,
c'était la rancœur,
et qui a donc perdu de ce fait l'Alsace et la Lorraine, on a essayé de fabriquer cet esprit de revanche. Mais tous les pays qui, en fait, sont devenus les belligérants, ceux qui ont formé les alliés et puis ceux qui ont formé les ennemis, pour dire ça comme ça, ont tous essayé de fabriquer la responsabilité de l'autre. Hein, donc l'Allemagne considérait que c'était la Russie qui était agressive vis-à-vis d'elle. L'Autriche-Hongrie, bien sûr, voulait régler le compte de la Serbie qui les dérangeait. Et la France voulait récupérer l'Alsace et la Lorraine, mais chacun a laissé imaginer que c'est pas eux qui voulaient la guerre, alors qu'en fait ils la voulaient presque un petit peu tous, puisque l'idée c'était effectivement de récupérer des territoires, et puis parce que cette guerre meurtrière, cette boucherie même on peut dire, elle a été précédée d'une guerre économique, c'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on vit aussi en ce moment.
Voilà, j'allais vous dire quelle résonance avec ça paraît évident, justement, à l'éclairage de propos comme
ça. Ça a tout à fait une résonance, parce que, pourquoi cette guerre économique? Tout simplement parce que chaque pays défend ses propres capitalistes, ses propres entreprises, et que faut bien, pour gagner des marchés, empiéter sur les marchés des voisins. C'est le système même, c'est le fonctionnement même du système capitaliste qui entraîne ce genre de compétition à l'intérieur d'un pays.
Prendre des parts de marché, on dirait cyniquement.
Ce qu'on nous sert maintenant sous le nom de compétitivité. Oui. C'est exactement la même chose. C'est quoi la compétitivité? C'est d'être mieux placé sur les marchés par rapport aux voisins pour le piquer justement les parts de marché aux voisins. Alors, il y avait ce problème de compétition économique, de guerre économique. Il y avait ce problème territoriaux par rapport aux colonies. L'Allemagne, qui était en pleine expansion à l'époque, souhaitait récupérer des territoires. Et effectivement, tout avait déjà été plus ou moins distribué. Et donc, par voie de conséquence, y a bien sûr eu des compromis, hein, puisque avant la guerre, il y a eu beaucoup de crises annonciatrices à cette guerre, en particulier avec l'Allemagne et le Maroc. Hein, donc, forcément, il y a eu... deux, trois fois, ça a failli déjà se transformer en rapport de force avec l'Allemagne, avec l'Angleterre. Il y a eu quand même pas mal de prémices. Mmh. Et puis, ça débouchait sur des compromis, ce qu'on appelle la diplomatie.
Oui, la diplomatie,
voilà. Mais c'est pour ça aussi, peut-être, d'ailleurs, il faut le dire, à la décharge du mouvement ouvrier, tous ces conflits qui se passaient un petit peu partout, chacun imaginait que ça resterait des conflits locaux. On avait du mal à penser que ça allait embraser l'ensemble de l'Europe et même, y compris, devenir une guerre mondiale. Parce qu'il faut aussi le rappeler, au départ, la première guerre dite mondiale a été une guerre entre pays européens. Essentiellement. Alors avec, bien sûr, le Japon qui très vite a déclaré la guerre à l'Allemagne, mais c'était quand même circonscrit dans un premier temps à l'Europe.
C'était quand même la première fois qu'il y avait un conflit qui était aussi étendu, il n'y avait jamais eu cette situation. Maintenant, on devrait être plus responsable avec ce qui se passe.
C'est-à-dire que quand on connaît le bilan de la Première Guerre mondiale, alors vous parliez de, disiez la Grande Guerre, la Grande Guerre, moi, ça m'a aussi hérissé un peu le poil quand j'ai entendu cette notion Grande Guerre, parce que d'abord ça peut se prendre dans différents sens. Grande Guerre dans la notion, c'est une grande guerre, c'est bien
nombre
c'est,
de morts, voilà, nombre de morts peut-être voilà, à la limite
c'est la guerre totale, etc. Mais moi, rien que le nom Grande Guerre, je trouvais que c'était absolument pas approprié, dans la mesure où ça a été une boucherie absolument épouvantable. Donc je trouve que cette notion là elle a pas lieu d'être, parce que justement
on s'allie le nom de grandeur,
barbarie, c'est une catastrophe, voilà. Et ce concept a été établi dans les états-majors qui, justement, ont imaginé, compte tenu du développement industriel des différents pays européens, que c'était une guerre qui allait être très offensive, très rapide, serait pliée en 2-3 mois, et donc après, chacun rentrerait dans ses foyers et passerait Noël en famille. Hein. C'est ce qui était imaginé au départ. En fait, elle a duré 4 ans et effectivement, il y a eu 10 millions de morts et des souffrances absolument épouvantables, entre autres dans les tranchées. Ça, tout le monde en parle, parce que c'est vrai qu'il fallait quand même le vivre. Et si, justement, les soldats ont accepté cette soumission-là, ça a été bien sûr contraint et forcé, hein, puisqu'il y avait une discipline de fer, une menace de conseil militaire. Il y a eu, bien sûr, les exemples,
c'est fameuse pour l'exemple, oui,
des
voilà,
mutineries et des fusillades. Ceux qui se rebellaient étaient tout de suite soumis au conseil de guerre. Il y a eu des procès expéditifs, etc. Et les mutineries, elles ont eu lieu après des offensives désastreuses où il y avait des milliers et des milliers de morts pour gagner 50 mètres de terrain l'ennemi. Enfin bon, et c'est en fonction de ces massacres-là qui ont été estimés comme inutiles par les soldats qu'il y a eu ces révoltes, mais pas qu'en France, hein, il y en a eu partout, et ça s'est réglé également par la répression, donc les fameux, effectivement, fusillés pour l'exemple. Ça, bien sûr, dans l'historiographie officielle, pas l'historiographie, parce que ça, on en parle évidemment, mais enfin, dans la façon de restituer le conflit, on en parle assez peu. Parce qu'effectivement, ça entache cette idée d'union sacrée. Voilà, tout le monde défendait la patrie.
Voilà, qui sont tous derrière le pouvoir.
Et même cette notion de défense de la patrie, elle a quand même été un peu déviée de son sens, parce qu'au départ, les nations se sont constituées au fil du temps, bien sûr, et cette notion de patrie, en tous les cas, elle a émergé au moment de la Révolution française, la patrie en danger, etc. Oui. Mais elle était liée aux valeurs attachées à la nation. C'était pas uniquement la patrie, le territoire, c'était également les valeurs. Alors les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité.
La France peut quand même s'enorgueillir d'avoir été
les révolutionnaires, la France, pas la France en tant que telle, parce que ça a quand même été une lutte de classe importante.
Ça s'est passé sur le territoire, voilà ce qu'on fait.
Même maintenant, c'est un gros mot de parler de lutte de classe. Hein. Maintenant, on veut nous laisser croire qu'il n'y a plus de différence de catégorie sociale, ce qui n'est parfaitement faux. Hein, on voit bien comment les choses se passent aujourd'hui, évidemment.
Et on s'en aperçoit au niveau mondial, non seulement, puisque maintenant, c'est plus à l'échelle des pays, c'est à l'échelle du monde, où ce même conflit, enfin oui, cette même opposition existe.
Bien sûr. Ouais. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est important de rappeler que la notion patrie, c'est lié à des valeurs. Mmh. Et ça dépasse la notion de territoire. Mais on a voulu enfermer ça dans la défense d'une aire géographique déterminée, aire géographique qui s'est constituée au fil des siècles, y compris par le rapport de force, par les mariages entre les monarques entre eux. Donc voilà, la France, elle n'était pas la France telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Puisqu'on les monarques, on allait les chercher d'ailleurs à l'extérieur de la France.
Exactement. Hein, donc en fait, c'est un peu comme ça que les choses se sont mises en place. Et donc cette défense de la patrie, elle a été un peu déformée de son sens initial.
Donc je vous coupe là, mais ce qui pourrait caractériser donc ce premier conflit dit mondial, là, c'est le fait que ça n'a plus jamais été après comme avant. Si on pouvait synthétiser...
Vu l'ampleur des dégâts, parce qu'effectivement, comme personne n'imaginait que ça allait durer 4 ans et que ça aurait fait autant de victimes et que toute la planète allait en quelque sorte pratiquement s'y mettre, parce qu'il y a quand même eu des pays
neutres, bien sûr.
Hein,
oui.
Là, on va un petit peu vite.
On réduit le monde. Voilà,
mais quand même. C'est une guerre mondiale.
Oui. Hein,
donc c'est vrai que quand on a constaté les destructions et les millions de blessés, enfin bon, un bilan catastrophique pour le partage du monde, pour un repartage du monde, parce que l'objectif essentiel, c'était ça.
En fait, c'est le seul moyen de rebattre les cartes à chaque fois qu'on veut. C'est le moyen le plus rapide. On fait une bonne guerre, comme on disait. Et puis voilà, on rebat les cartes. Ouais, on s'est aperçu que les résultats, peut-être, étaient quand même...
que le résultat était
par rapport aux énormes dégâts.
Parce que c'est le problème du rapport de force. Hein. Quand on se bat dans ce cadre de ce système-là, on imagine évidemment qu'on va gagner. Mais c'est pas si simple. Et puis, y a des gagnants, il y a des vainqueurs. Il y a des gagnants et des vaincus, bien sûr. Et donc, forcément, les vaincus du moment ne sont bien sûr pas satisfaits du résultat et vont n'avoir qu'une hâte, c'est d'essayer de récupérer ce qu'ils ont perdu.
Le second conflit.
Exactement. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, parce que, effectivement, les traités de paix qui ont été élaborés à Versailles en même temps que la Société des Nations, donc cet organisme qui voulait être un organisme d'arbitrage. Mais il y en avait déjà avant des organismes d'arbitrage. Il y avait justement à la Haye, qui était un tribunal international, pour régler les conflits de manière pacifique. Donc la Société des Nations a été constituée en même temps que les traités de paix, mais ces traités de paix étaient des traités de paix revanchards pour faire payer l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, qui a été considérée à tort comme les seuls responsables de la guerre. Donc forcément, ils ont dû payer une telle dette aux autres pays que ça ne pouvait que les mettre dans la difficulté. Et donc, du coup, ça a engendré, bien sûr, les ferments qui ont permis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça que les pacifistes, d'ailleurs les plus convaincus, comme Jaurès, dont on sait qu'il a été assassiné à la veille de la déclaration de guerre, effectivement, lui disait dans ses discours que le capitalisme portait en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. C'est-à-dire que ce rapport de force, ces conflits permanents sont dus au système même, au fonctionnement interne même du système capitaliste. Et forcément, les socialistes de l'époque proposaient de se débarrasser de ce système pour se débarrasser justement du rapport de force. Puisque tant qu'on est dans ce système-là, ben évidemment, on évite, bien sûr, le rapport de force armée, bien sûr.
Mais ça ne fait que reporter.
Mais il est toujours dans les probabilités, dans les possibilités. Et quand toutes les autres possibilités ont été épuisées, bien, ceux qui tiennent les manettes, pour dire ça comme ça, ben évidemment, ne peuvent ne pas hésiter à aller jusque-là. Et c'est bien pour ça que la situation qu'on vit en ce moment, d'ailleurs c'est un politologue qui le disait sur France Inter, en voyant ce qui se passait avec la Crimée, l'Ukraine, l'attitude de la Russie qui se veut refaire, qui veut se refaire une zone tampon, disait que ça lui faisait penser à ce qui s'était passé avec l'Autriche-Hongrie et la Serbie, qui était en fait un phénomène parmi d'autres que certains espéraient régler de manière locale, mais qui a mis le feu aux poudres, comme on sait, hein, et avec tout ce que ça a impliqué, parce que dans le déroulement des opérations, dans le déroulement, dans le détail, chacun a choisi. Et chacun, la Russie comme la France, a choisi de rentrer en guerre. Et il y avait bien sûr d'autres options possibles, bien évidemment. Bien sûr. L'Angleterre, elle, c'est un peu différent parce que l'Angleterre n'est entrée en guerre qu'à la suite de l'invasion de la Belgique.
Phénomène qui s'est reproduit après dans le second conflit mondial, Américains sont rentrés aussi. À chaque fois qu'ils étaient impliqués directement ou leurs biens étaient impliqués finalement.
Et c'est vrai que c'est important de restituer les choses. Alors les causes sont complètement occultées dans tout ce qui est mis en place en ce moment pour les célébrations, ce qui est bien dommage, parce qu'effectivement ça remet en cause le système.
Apocalypse, quand tu nous tiens.
C'était un peu ça qui était regardable.
Du bon travail, mais académique,
ne permet pas de comprendre pourquoi. Or, la démarche historique, elle est celle là. C'est pas simplement une démarche pour montrer des faits. Bien sûr, c'est bien de les montrer.
Il faut les connaître. Il faut les faire connaître à des générations qui eux ont connaissance avant. Mais
c'est pas suffisant pour comprendre pourquoi. Parce que si on veut éviter un autre conflit mondial qui n'est pas exclu, évidemment, et malheureusement, tant qu'on reste dans ce système. Si on veut l'éviter, il faut bien comprendre pourquoi les autres ont eu lieu.
Pourquoi d'ailleurs nous avons invité, enfin on s'est invité chez vous à RFM pour avoir cet angle de vision qui détonne un petit peu par rapport à effectivement toutes les commémorations officielles très largement diffusées auprès du grand public.
En tous les cas, tel que le président Hollande l'a présenté, ça c'est sûr. Mais bon, moi ça ne m'étonne pas particulièrement parce que tel que fonctionnent à l'heure actuelle nos systèmes politiques, les gens qui nous gouvernent actuellement, les précédents c'était là exactement la même chose, ne tiennent absolument pas à remettre en cause quoi que ce soit.
Ce qui a été écrit, ce qui a été établi de toute façon.
Voilà. Puis même le fonctionnement du système. Ils essayent, ils s'y adaptent, ils essayent de trouver des solutions qu'ils ne trouvent pas d'ailleurs, parce qu'ils n'en trouvent pas, forcément, puisque ça fonctionne tel que ça fonctionne, il n'y a pas de miracle. Et donc, par voie de conséquence, ils ne remettent rien du tout en cause. Et c'est ce qui explique d'ailleurs cette désaffection de nos concitoyens pour la chose publique. Parce qu'effectivement, les gens n'y croient plus. Ils sont forcément déçus. Ils essayent la droite, évidemment, ils ne sont pas contents. Ils essayent la gauche, ils ne sont pas plus contents. Donc, il y a le vote de protestation Front National qui est évidemment une catastrophe, ça c'est sûr que c'est pas la solution, même si pour un grand nombre de ceux qui ont voté pour le Front National, c'est un vote protestataire, ça ne veut pas dire qu'ils partagent les vues du Front National, et tant mieux, mais il n'empêche que c'est quand même dangereux. Et bien sûr qu'il serait possible de faire autrement. Donc soit ils font ce vote protestataire, soit ils s'abstiennent et ça ne veut plus rien dire. C'est-à-dire que nos démocraties sont vidées de leur contenu la plupart du temps. Et donc moi je suis dans une démarche en tant qu'humaniste par rapport à mes différentes activités. Je suis dans une démarche pour que mes concitoyens se réapproprient leur part du pouvoir politique. Vous me tendez une perche, là, c'est un peu mon dada.
Pour avertir nos auditeurs que les grognements que vous entendez, ce n'est pas le peuple qui gronde encore à la porte, le peuple d'Aubervilliers, mais c'est souvent la petite chienne de Sabine qui manifeste, qui hurle son accord avec Sabine, d'ailleurs, elle est d'accord avec sa maîtresse.
Alors, voilà, ma petite chienne s'appelle Gaïa, qui a effectivement une connotation historique, puisque Gaïa, c'est la déesse de la Terre, et forcément,
tout à voilà.
Je
voilà,
ne
voilà.
pouvais que donner ce type de
nom. Participe à l'interview voilà. également. Elle a tout voilà. à fait raison.
Et donc excusez-moi, je vous ai coupé, oui, non, mais c'est pas grave. Élan, je disais mais... voilà que la façon dont fonctionne notre système politique, notre démocratie, ça, on a les institutions démocratiques, certes, mais on n'en a plus le contenu. Et ce qui fait qu'il y a cette désaffection des citoyens. Et donc moi, pour que mes concitoyens se réapproprient leur part de pouvoir politique, je pense qu'il faudrait cesser de faire confiance aveuglément aux uns et aux autres, leur signer justement des chèques en blanc jusqu'à la prochaine échéance électorale, et à réapprendre, parce que ça s'est fait dans certains événements historiques comme la Révolution française ou la Commune de Paris, que nous réapprenions les uns et les autres à contrôler nos élus, leur rappeler qu'ils ne sont que nos mandataires, qu'ils nous représentent, mais que le pouvoir, c'est nous, et qu'ils n'ont pas à en user, à en abuser à notre nom. Et donc, un des paramètres qui me semble absolument important et primordial, c'est la fameuse notion de révocabilité permanente oui. des élus, qui est une notion qui, moi, me tient beaucoup à cœur, parce qu'effectivement, pourquoi quand des gens se font élire sur un programme et qu'ils ne le respectent pas, pourquoi faut-il qu'on continue à les subir jusqu'à la fin de leur mandat? C'est parfaitement anormal et injuste. Et donc cette notion-là donc de révocabilité permanente des élus, qui a donc été utilisée, comme je l'ai dit, déjà...
Dans un temps voilà, relativement court.
Dans un temps court, c'est vrai. Mais, c'est vrai, mais n'empêche, oui, que, n'empêche que le concept a le mérite, oui, bah, a le mérite il a, d'exister. D'avoir et été donc, le... si on se le réapproprie, voilà. ça pourra faire peut-être comprendre justement à nos élus qui ne sont pas propriétaires
qui n'ont pas des rentes
du pouvoir.
De situation.
Voilà, voilà, exactement. Ils sont sur des sièges éjectables. Alors moi, je ne tombe pas dans l'excès du tout pourri parce qu'il ne faut pas exagérer. Il y a des gens très bien, bien sûr.
Voilà,
bien évidemment. Bien mais ils sont englués dans le système. Ils sont englués dans le système. Et donc, c'est vrai que si on renouait avec le fait de pouvoir contrôler nos élus, de pouvoir révoquer ceux qui ne remplissent pas leurs promesses ou pire encore, les corrompus, parce qu'il y en a. Il y en a qui se traînent des affaires et qui sont réélus,
ce qui est
parfaitement anormal.
On a assisté longtemps encore à des magnifiques...
Voilà, parce que le citoyen lambda, lui, s'il commet un délit, il est sanctionné, il va en prison, etc. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une notion qui est absolument révoltante, c'est l'immunité parlementaire. Ouais, oui. Au nom de quoi les élus profitent d'un privilège qui les met à l'abri et qui leur permet de pouvoir commettre certaines exactions et délits oui. et d'être protégés par rapport à la société de ce qu'ils, d'une
Alors,
condamnation
C'était qu'à un moment
possible.
Donné, 4e République, je crois qu'il y avait un qui se faisait les choux gras d'abattre l'adversaire en les... En les compromettant, etc. Mais enfin, c'est pas une raison. Enfin, c'était la solution n'a pas été trouvée.
De toute manière, quand on prétend représenter ses concitoyens, mais on devrait être exemplaire et parfaitement intègre, parce que forcément, c'est ça qui redonnerait confiance à la population et que les élus nous rendent des comptes de leur gestion. Quand ils ne peuvent pas transformer les choses, quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils souhaiteraient, mais qu'ils nous l'expliquent, qu'ils disent pourquoi, qu'ils expliquent leur choix. Hein, mais là, c'est pas ce qui est fait. Enfin, ils disent qu'ils vont les expliquer parce qu'en fait, paraît-il qu'il faudrait faire plus de pédagogie.
Maintenant est apparue la communication.
Voilà, c'est ça.
Qui peut
être
une très grande part dans le...
Voilà, mais bah, bon, voilà. La communication telle qu'elle fonctionne à l'heure actuelle, c'est quand même plus une façon de pouvoir nous endormir.
C'est-à-dire trouver les bonnes formules. C'est devenu une méthode de pouvoir.
Voilà, pour essayer de nous faire croire que de toute manière, ils font ce qui doit être fait et qu'il n'y a pas d'autre solution possible. Alors qu'effectivement, il y en a. Bien sûr, il y en a. Les politiques font des choix. Et là, en l'occurrence, même justement, comme je disais en boutade, si la lutte de classe, c'est un gros mot maintenant, effectivement, c'est des choix de classe qui sont faits. Hein, c'est-à-dire, là, à l'heure actuelle, les choix sont faits pour défendre les entreprises au nom de la création d'emplois, mais sauf que le résultat, il n'y a pas de création d'emplois et les entreprises engrangent des subventions. Engrangent des subventions, engrangent de ne pas payer d'impôts, payer moins, alors que certains en plus pratiquent l'évasion fiscale, ce qui est parfaitement scandaleux, puisque tout un chacun, vous comme moi, Daniel Grasset, moi je paye des impôts, vous imaginez que vous aussi. Et nous on ne pratique pas l'évasion fiscale.
Notre village global a des quartiers très très différents, et enfin, dont certains sont seulement connus de...
Donc moi je trouve que c'est ce système-là qui fait qu'il y a cette désaffection du politique, et si on ne veut pas connaître, avec des différences évidemment, hein, je veux dire c'est une vue de l'esprit d'imaginer que l'histoire est un éternel recommencement, heureusement que non, les choses ne se reproduisent pas forcément de la même façon, mais les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets.
C'est-à-dire
qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles catastrophes. Et si on ne veut pas que ça se produise, eh bien effectivement, il faut se mettre à faire de la politique, tout le monde, la politique avec un grand
avec
P.
Avec un grand P.
Voilà. Politique politicienne, pas la carrière des autres.
Vous avez fait avancer cette cause-là auprès de nos auditeurs, et on aura plaisir à vous réinviter sur nos micros pour traiter d'autres sujets. Avis à nos élus, il y a des élections encore à venir, devraient méditer ce genre de propos. Oui, vous voulez rajouter quelque chose ?
Si je peux rajouter, justement, vous parliez d'élections à venir. Effectivement, il y a les élections européennes et le nouveau Parlement européen qui doit sortir des urnes aura pour tâche de voter, d'abord de négocier, un traité qui est en ce moment discuté en secret, hein, le traité transatlantique, qui est issu de l'OMC, hein, l'Organisation mondiale du commerce, qui est un traité qui a pour but et qui est négocié dans le plus grand secret, qui a pour but de lever toutes les entraves au commerce international et entre les deux rives de l'Atlantique. Ce qui veut dire que si ça se met en place, on aura droit au poulet chloré américain, on aura droit aux OMG, il n'y aura plus aucune entrave. Et pire encore, dans ce projet, il est prévu que entre les conflits entre l'État et une entreprise privée qui serait empêchée de réaliser son commerce, pourrait être tranché par des tribunaux arbitraires, le même type de tribunal qui a favorisé le tapis, comme on le sait, que forcément les États perdront à tous les coups. Et même s'il y a un mouvement social, une grève par exemple, et que l'État ne peut pas empêcher la grève et que ça empêche l'entreprise de pouvoir réaliser son commerce, eh bien l'État peut être condamné.
Et donc c'est ça qui va être discuté
au Parlement européen. Donc c'est l'occasion justement de dire aux auditeurs d'être très vigilants par rapport à ce qui se trame sur notre dos et qui va être une catastrophe si ça se met en place.
Et qui se trame un petit peu loin de Paris.
C'est une exaction de plus du capitalisme, certes, puisque c'est le capitalisme qu'il faut contester, mais quand même une exaction qui ne peut qu'aggraver encore davantage la situation des uns et des autres.
Je crois qu'on a bien compris, Sabine, et là, on resterait des heures, mais malheureusement, l'antenne ne nous appartient pas. Il nous reste à vous remercier, Sabine, Gaïa, pour sa participation, et qu'il y a des soucis à se faire dans son écuelle, hein, plus tard.
Merci à vous.
Et bien sûr, on peut se procurer ce DVD.
C'est 1914-1918. La DER des DER inaugure un siècle de barbarie.
Disponible donc.
Alors disponible l'association donc qui est la productrice donc de ce DVD qui s'appelle Le Temps de le dire. Voilà. Et vous pouvez donc nous avons un site bien sûr et également un numéro de téléphone 06 09 27 49 70.
Voilà. Donc vous pouvez D'une part, peut-être le trouver dans certaines médiathèques, ça on ne sait pas encore. Mais en tout cas, de façon encore plus sûre, vous le procurez auprès de cette association. Sabine, je vous remercie de cet éclairage particulièrement intéressant et rare, trop rare. Donc on peut se dire à très bientôt, puisque nos chemins se recroiseront encore et il y aura toujours une place. Sabine Delbault, auprès de nos auditeurs, via notre micro.
Eh ben, merci à vous, au revoir. À bientôt et au revoir.